En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mercredi 13 juin 2012, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Giovanni Domenico Cassini, le Bureau des Longitudes a organisé une journée scientifique autour de l'astronome français, né en 1625 et décédé en 1712. Giovanni Domenico Cassini s'est investi dans l'étude du système solaire de la Terre jusqu'au Soleil. Il a découvert notamment des objets et des phénomènes tels qu'un certain nombre des satellites de Saturne, ou encore la lumière zodiacale. Membre associé de l'Académie royale des sciences en 1669, on lui doit notamment le calcul de la distance Terre-Soleil, les longitudes terrestres ou encore une cartographie de la Lune. Consulté par Colbert sur la construction de l'Observatoire de Paris, il s'y installe en 1671 et participe à la mesure de la méridienne de l'Observatoire. Le Bureau des longitudes lui rend donc un bel hommage avec ce cycle de conférences. Régis Courtin est chargé de recherche au CNRS au sein du Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, de l'Observatoire de Paris à Meudon. Il est spécialiste d'études des atmosphères des planètes géantes et de Titan du point de vue des évolutions chimiques et climatiques. C'est également un spécialiste de l'analyse des mesures de spectrométrie infrarouge à l'aide notamment de la sonde Cassini. Il présente dans sa conférence un exposé sur les phénomènes orageux sur Saturne, phénomène observé par la sonde Cassini. Retrouvez dès maintenant la conférence de Régis Courtin qui s'est déroulée à la Fondation Del Duca.
Bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être ici. Je trouve que c'est une très belle idée d'avoir rendu hommage à Cassini en mentionnant toutes ses découvertes et en voyant le prolongement qui a eu lieu depuis 400 ans. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on parle des phénomènes orageux sur Saturne. Alors, quand on parle de phénomènes exceptionnels, parce que ce sont quand même des phénomènes exceptionnels, il faut d'abord décrire l'état normal et parler de ce qu'on voit en temps normal au sommet de l'atmosphère de Saturne. Eh bien, sur le diagramme de gauche, vous avez une coupe verticale de l'atmosphère de Saturne avec en abscisse les températures. Alors, les températures, c'est intéressant pour prédire un peu ce qui va se passer à mesure qu'on monte en altitude. Ce qu'on imagine, hein, parce qu'on n'a pas des informations encore très précises, mais ce qu'on imagine, c'est qu'il y a de la vapeur d'eau quelque part, parce que l'eau est omniprésente dans l'univers, donc dans le système solaire. Donc la vapeur d'eau va condenser en dessous de 273 K, et donc ça correspond à peu près à un niveau de pression un peu plus que 10 atmosphères. Alors l'échelle d'altitude, on a toujours un problème parce qu'on ne sait pas où fixer le niveau zéro. La convention, c'est en général de le mettre à 1 bar, bon diagramme, il est à 0,1 bar. Donc c'est un peu à la va comme je te pousse. Au-dessus de ce nuage de vapeur d'eau va se condenser un composant atmosphérique qu'on n'a pas encore complètement identifié. On est à peu près sûr qu'il est là, mais bon, la preuve par spectroscopie est assez difficile à faire. C'est un mélange d'ammoniac et de soufre avec de l'hydrogène, donc c'est du NH4SH, hydrosulfide d'ammonium, qui va se condenser, qui va former donc un nuage intermédiaire. Et puis au-dessus, on aura l'ammoniac, qui est également assez abondant, que ce soit quand même un composé minoritaire. L'ammoniac va se condenser et former un nuage. Et c'est à peu près ce qu'on voit sur la face visible de Saturne, c'est le sommet du nuage d'ammoniac, sauf qu'au-dessus de ce nuage d'ammoniac, alors j'ai oublié, il y a un nuage de phosphine qui s'intercale entre l'hydrosulfide d'ammonium et l'ammoniac. Et donc, au-dessus de ce nuage d'ammoniac, il va y avoir une couche de brume, qui sont des particules d'ammoniac, de phosphine, d'autres composés qu'on commence à connaître un peu mieux. Il y a probablement des molécules aromatiques, etc. Et cette couche de brume va brouiller de façon assez importante l'image visible de Saturne. Effectivement, il y a d'autres moyens de faire des images de Saturne. On pourrait montrer ici une image en infrarouge proche, en infrarouge lointain, et vous aurez un aspect très différent puisque l'influence de ces particules est très différente suivant la longueur d'onde. Donc, en visible, la diffusion par ces particules de brume est assez importante, diffusion de mi. Dans l'UV, vous aurez une autre image parce que va intervenir la diffusion Rayleigh, donc qui va limiter encore plus le sondage qu'on peut faire de cette atmosphère, alors que dans l'infrarouge proche, moyen ou lointain, alors là, vous pourrez traverser à un degré plus ou moins important cette couche nuageuse et peut-être même sonder Alors on espère dans les années à venir avec des instruments nouveaux comme l'OFAR par exemple qui sonde dans les longueurs d'onde métriques. On espère pouvoir traverser ces couches nuageuses. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà donc à peu près la situation normale. Alors c'est une situation assez différente de celle qu'on voit sur Jupiter, essentiellement à cause de cette couche très étendue de brume au-dessus du nuage principal. La couche de brume de Jupiter est beaucoup plus faible et donc elle n'a pas tendance à brouiller les images. Et en général, on voit une activité météorologique sur Jupiter beaucoup plus intense. C'est sans doute qu'une apparence, en fait. On va voir que sur Saturne, il y a également des phénomènes météorologiques très importants. Alors, une description très sommaire qu'on peut faire de l'activité météorologique sur les planètes géantes, c'est qu'il y a des mouvements d'air ascendants. Alors, ces planètes sont en rotation rapide. Il y a des courants, des vents zonaux qui ont une alternance est-ouest, donc ça crée des cisaillements. Donc quand vous avez une colonne d'air qui entraîne avec elle les particules nuageuses, qui sont soumises à ces mouvements de cisaillement et la rotation rapide, donc un effet Coriolis très important, vous avez donc forcément des mouvements tourbillonnaires avec cette alternance de bandes et de zones qui est due donc à la circulation zonale alternée est-ouest. Grossièrement et sommairement, voilà ce qui se passe. Alors un bref historique des phénomènes orageux sur Saturne, je ne remonte pas très loin hein, parce que les données d'observation, disons précises, ne remontent pas au-delà, je dirais, des missions Pionnier et Voyager. Donc avec Pionnier, on a essentiellement fait un passage rapide, donc on n'a pas pu voir des phénomènes qui duraient dans le temps ou des phénomènes sporadiques. Alors qu'avec Voyager, on a eu deux passages. La qualité des images était bien meilleure. Donc on a pu voir essentiellement des phénomènes assez localisés, même très localisés, dans l'hémisphère nord. En 90, avec le télescope, qui pouvait donc faire des images haute résolution de Saturne, on a vu, on a étudié un puissant orage qui s'est développé à l'équateur. Il a également été observé depuis le sol avec des télescopes de l'ordre du 1 mètre. Par exemple, la station d'observation planétologie du Pic du Midi a fait de très belles observations de cet orage. Depuis 2004, donc, on a une mission en orbite autour de Saturne qui s'appelle Cassini. Et dans la période qui précédait l'équinoxe, qui s'est produit en août 2009, on a vu un certain nombre de phénomènes orageux également localisés et confinés à une zone assez étroite qu'on appelle le couloir des orages, Storm Alley en anglais, qui se situe vers 35-40 degrés sud. Et puis, aux surprises, en décembre 2010, un phénomène très très important, puissant orage s'est déclenché et les conséquences sont encore visibles actuellement à l'échelle de la planète tout entière. Alors, ce type d'orage d'envergure planétaire, on en connaît 6 observés, disons, qui sont documentés. Et on a constaté qu'il y avait une périodicité voisine de 30 ans, donc un par année saturnienne. Il se déclenche apparemment soit à l'équateur, soit dans l'hémisphère nord. On n'en a jamais observé dans l'hémisphère sud. Donc le premier, c'était en 1876, puis 1903, 1933, 1960. Et alors les deux pour lesquels on a des observations extrêmement précises et étendues en longueur d'onde, en résolution spatiale, donc c'est 1990 et 2010. Alors ici, vous avez 4 images prises par Space Telescope, Hubble Space Telescope, où on voit que le phénomène s'est étendu à une bande équatoriale, s'est étendu tout autour de la planète. Et sa durée de vie a été de plusieurs mois. Donc il y a cette périodicité d'à peu près 30 ans. On constate également que le déclenchement se produit entre l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère nord et l'équinoxe d'automne. Donc rose pour le printemps, les petites fleurs, orange pour l'automne, donc c'est les feuilles qui fanent. Ça c'est pour la mémorisation visuelle. Et donc vous voyez, les croix bleues sont les 6 événements qu'on a observés jusqu'à maintenant. Alors ça oscille pas mal, hein. Soit le bleu est sur l'orange, et puis dernièrement, le déclenchement de cet orage, 1 an et quelques mois après l'équinoxe de printemps. Donc il y a vraiment une grande latitude dans le moment du déclenchement de ce type d'orage. Alors, je me suis posé une question, et il n'y a pas eu de concertation avec Suzanne. Est-ce que Cassini aurait observé un tel événement en 1677 ? Étant donné la résolution des observations à l'époque, j'imagine qu'une bande de nuageuse à l'équateur devait être une certaine importance, un contraste important, une étendue en latitude importante. Donc ça ressemblerait à l'événement de 1990, par exemple, ou d'autres événements, 1867, 33 et 1990. Bon, alors je suis remonté dans le temps. Alors voilà ce que ça donne, ça donnerait. Et malheureusement, ça tombe entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. Mais on a vu qu'il y avait une certaine latitude. Alors est-ce que ça peut basculer et passer? Est-ce que le déclenchement peut se produire avant l'équinoxe de printemps? C'est pas impossible puisqu'on ne connaît pas en fait la cause du déclenchement. C'est une observation à l'équateur. Alors il y a une pseudo-périodicité, hein, tous les 60 ans, c'est l'équateur et si on décale, c'est l'hémisphère nord. Et ça correspondrait, ce serait un déclenchement à l'équateur. Donc il y a une probabilité non nulle que ce soit la première observation documentée d'un orage d'envergure planétaire sur Saturne par Cassini. Donnons-lui crédit de manière posthume. Alors, l'observation dont je vais parler maintenant, donc c'est consacré à cet événement exceptionnel qui se produit depuis décembre 2010. On a à notre disposition toute une panoplie d'instruments à bord de la sonde Cassini. Alors, on a des observations en lumière, ce qu'on appelle le remote sensing, donc en détection à distance par la lumière. Donc, on a de l'infrarouge proche avec VIMS. On a de l'imagerie visible. Bon, ça déborde un peu. Il y a un peu d'infrarouge proche, un peu d'UV proche, avec ISS, NAC et WAC. Donc, c'est des Wide Angle Camera et Narrow Angle Camera. Donc, c'est des résolutions plus ou moins importantes. On a UVIS. Alors, je n'ai pas trouvé d'observation UVIS. Mais elles doivent exister quelque part. Et puis CIRS, ça c'est de l'infrarouge lointain, c'est de la spectroscopie en infrarouge lointain. Et puis on a des antennes radio, ça s'appelle RPWS, Radio Plasma Wave Spectroscopie ou un truc comme ça, qui détectent alors les ondes radioélectriques émises par les orages. C'est un phénomène bien connu. Alors avant, voyons ce qui s'est passé depuis le début de la mission Cassini. Comme je te le disais précédemment, on a vu des orages assez localisés dans cette bande de latitude 35-40 degrés sud. Alors, il y a eu un premier événement dès l'arrivée de Cassini en septembre 2004. On a appelé ça l'orage du dragon à cause de sa forme assez spectaculaire avec une langue de feu. Et c'est un phénomène qui apparemment a été vu à plusieurs reprises. En mars, on n'a pas tout de suite fait le rapprochement, mais quand on regarde les observations sur une durée de temps assez importante, on voit que c'est le même phénomène qui s'est reproduit. On peut identifier grâce en particulier aux émissions radioélectriques qu'on appelle les SED, Saturn Electrostatic Discharge, qui sont détectées par les antennes radio. Un autre événement du côté nuit cette fois-ci, observé en décembre 2005, toujours à peu près cette même forme tourbillonnaire. Donc, on verra tout à l'heure un modèle de structure verticale de ces orages. Donc, il y a une colonne ascendante qui s'élève jusqu'au niveau de la troposphère supérieure. Et là, les vents zonaux viennent entraîner le gaz qui s'est élevé au-dessus des nuages. Et en plus, c'est des mouvements tourbillonnaires, donc ça donne cet aspect assez torturé au sommet de la colonne orageuse. Même phénomène en avril 2008, toujours dans la même zone. Là, c'est un exemple alors, de détection optique, donc par la caméra ISS, d'éclair, du côté nuit, évidemment, parce que du côté jour, on aurait du mal à le faire. Et en plus, c'était en août 2009, donc au moment où les anneaux étaient éclairés par la tranche, par le soleil, donc il y avait une réflexion très très faible des anneaux sur l'atmosphère. Ce qu'on pourrait appeler le clair d'anneau était vraiment minimum. Donc l'équipe associée à la caméra a pu détecter cette région donc orageuse. On est à peu près sûr que ce sont des éclairs d'orage et pas un phénomène bizarroïde. L'explication la plus simple, ce sont des éclairs. Dernière observation que j'ai ajoutée ici, c'est dans ce fameux couloir, il y a eu une activité assez intense en 2008. On voit pas mal de volutes qui sont probablement donc des colonnes de gaz ascendantes qui ont été entraînées par le courant. Il faut mentionner donc également cette activité donc des charges électrostatiques importantes qui avait été détectée. C'est la première détection qui avait été faite donc en 2006 par l'équipe RPWS. Alors, ce que vous voyez là, c'est des détections en fréquence, donc l'échelle de fréquence et l'échelle verticale et l'échelle horizontale, c'est l'échelle de temps. Donc, ça s'est passé dans la nuit du 23 au 24, entre 20h et 3h du matin. Alors, vous voyez des événements relativement discrets. Alors, il y a une fréquence de coupure qui est due à l'ionosphère de Saturne. Et puis, donc, la gamme de fréquence, c'est à peu près 2 MHz jusqu'à 16 MHz. Donc ça, c'était un événement relativement important par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent. enfin jusqu'à l'époque. Malheureusement, alors il y a, là j'ai mis un texto, un message diffusé par un des chercheurs associés à l'instrument. Il se trouvait que Cassini était du côté nuit, donc il ne pouvait pas observer avec les caméras, il ne pouvait pas vérifier si ces émissions électrostatiques correspondaient à un orage qui serait visible. Donc il a lancé une alerte sur le réseau amateur, sur les réseaux amateurs, en demandant si les observateurs n'avaient pas des images correspondant à cette date-là. Et comme par hasard, enfin non, c'est pas un hasard, en fait, c'est un exemple d'une très bonne collaboration entre professionnels et amateurs. Le lendemain, nos collègues, enfin on peut les appeler collègues, parce qu'ils font vraiment un travail extraordinaire, Bondou et d'Auvergne en France ont pu faire cette image. Alors vous voyez à peu près donc, dans la bande de 35-40 degrés sud, vous voyez une petite tache blanche qui correspond à ces émissions relativement intenses, mais qui n'a pas eu un développement comme celui qu'on va voir prochainement. Un autre exemple d'observation par un amateur en Australie cette fois. Alors c'est encore plus faible, mais l'image d'en bas, on voit un peu mieux le petit point. Alors maintenant, on va voir ce phénomène extraordinaire qui s'est déroulé à partir de décembre 2010, donc qui a même fait la une de Nature, donc c'est vous dire. Alors là également, ce sont des amateurs, enfin amateurs entre guillemets, donc c'est le réseau international Outer Planet Watch, donc qui réunit à la fois des amateurs et des professionnels, qui ont vu les premiers signes de développement de cet orage. Donc le 5 décembre, en haut à gauche, on voit un petit point blanc. C'est une forme classique, hein, c'est ce qu'on appelle les white spots, qu'on voit régulièrement à la surface, qu'on voit apparaître régulièrement dans l'atmosphère de Saturne. Mais on ne s'attendait pas à un développement aussi extraordinaire. Sur le schéma de gauche, vous voyez la progression au mois de décembre, de la tache, enfin de l'étendue superficielle de cette tache. Pendant les deux premières semaines, donc le taux de croissance était de 20 km² par seconde. Et puis d'un seul coup, ça s'est passé à plus de 200 km² par seconde. Et l'aire de la tache, de cette GWS, a plafonné, on peut dire, à 65 millions de km², donc 120 fois la tache. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à être mise à mal par les vents zonaux. Alors, dans la même période de temps, il y a eu évidemment des observations RPWS. Alors, vous pouvez comparer ce diagramme à celui que vous avez vu précédemment. Là, les éclairs sont tellement nombreux qu'il n'y a plus aucun événement isolé. Tout le sommet, la bande, là, est rempli de signal, sauf sur les bords où on voit encore quelques événements isolés. Mais donc, c'était vraiment des éclairs très, très rapprochés. Le 13 décembre, une autre observation qui montre clairement cette tache blanche qui se développe, cette grande tache blanche. Et puis, les observations Cassini, bon, il y en a eu avant Noël, mais disons que celle-là commence à vraiment montrer une étendue qui dépasse toute mesure, puisque l'étendue est comparable à celle de la Terre, hein, 10 000 km en latitude et 17 000 km en longitude. Et on commence à voir sur le bord sud-est de la tâche l'entraînement des particules. Alors, ce qu'on voit essentiellement, c'est des particules d'ammoniac qui sont entraînées par les vents zonaux. Ça, c'est une image en fausse couleur du 12 janvier 2011. Alors, le codage en couleur, on le verra plus tard, hein, il est pratiquement le même à chaque fois. En rouge, c'est du continu vers 720 nanomètres. Le vert, c'est 727 nanomètres. C'est une ref relativement faible du méthane. Et le bleu, c'est 889 nanomètres. C'est une ref saturée de méthane. Donc, mais bon, là, je ne suis pas sûr parce qu'on ne voit pas beaucoup de vert ni de bleu. Donc, ces images-là sont toujours très difficiles à comprendre quand elles sont en fausse couleur, mais elles sont belles. Le 25 février, donc là, on a un développement très important. Donc, ce qui se passe, c'est que la base de la colonne, et donc le centre de la tâche, se déplace vers l'ouest. Il est entraîné par un mouvement d'ensemble vers l'ouest, tandis que les pourtours de la tâche, qui sont à des latitudes légèrement supérieures ou inférieures, elles sont entraînées par des vents qui sont opposés vers l'est. Donc, il y a un étirement. Et la conséquence, c'est que la queue du nuage, en fait, a fait tout le tour de la planète et est venue rejoindre la tête qui partait dans l'autre direction, mais avec une vitesse plus faible. Bon, revenons à nos images. Ça, c'est encore une image par un amateur. François Collat et ses collègues ont fait une très belle image le 21 avril avec la lunette Arago. Là, on voit, en fait, le nuage fait pratiquement tout le tour de la planète. Le 24 mai, une image Cassini. Et donc, plus de 8 mois après le déclenchement, eh bien, il y avait encore des traces visibles de ce nuage au mois d'août. Des images à haute résolution, j'en ai pas beaucoup parce qu'il faut les commenter et c'est difficile. En haut à gauche, vous avez la tête de l'orage, donc c'est la colonne ascendante qu'on voit, c'est le sommet de la colonne ascendante, tandis qu'à droite, c'est plutôt vers la queue, enfin c'est un peu plus à l'est. Vous avez en fait l'indication avec les crochets, là vous avez l'indication des zones observées à haute résolution. Alors tout en à droite dans la queue, vous avez un très beau phénomène aussi. On a l'impression qu'il y a un cyclone dans l'orage. La tache bleue là, avec un trou central un peu plus sombre, c'est typiquement la forme d'un cyclone. Alors là, vous avez le code de couleur, donc 750, c'est le continu. Donc on est sensible à beaucoup de choses, des nuages profonds, des nuages intermédiaires. Le vert, c'est du méthane, mais relativement peu intense. Et puis là, le bleu, c'est une raie très forte du méthane. Donc là, on est au-dessus de la plupart des nuages. Ça, on en a parlé. Alors les mouvements qu'on a pu donc mesurer et la vitesse de ces mouvements est tout à fait compatible avec la vitesse des vents qu'on connaît depuis la sonde Voyager et qu'on a remesuré avec Cassini. On a mesuré également avec le Space Telescope. Donc, en haut, c'est le mouvement de la tête de l'orage. Et puis, un peu plus bas, c'est les zones du pourtour qui ont été entraînées vers l'est. Donc, vous voyez, il y a un déchirement, il y a un cisaillement qui se produit puisqu'il y a une inversion de vitesse entre les deux zones. Des images prises en infrarouge proche également qui sont pas aussi bonne résolution, évidemment, que celles d'ISS. Bon, je passe. Alors, des données en thermique, cette fois, avec le spectromètre infrarouge lointain. Ce qu'on a vu au début, ce sont l'image d'en haut. Dans la première phase, on a vu deux points chauds, de part et d'autre de la tête, de l'orage. On a vu une augmentation des températures dans la stratosphère entre janvier et mai. On a vu un renforcement des émissions des hydrocarbures, en particulier C2H2, C2H6, C3H4, C4H2. On verra des spectres tout à l'heure. Une accélération des vents stratosphériques. Dans un deuxième temps, les deux points chauds se sont fondus en un seul. Les températures stratosphériques sont passées par un maximum dépassant 220 Kelvin, ce qui fait un contraste, enfin une augmentation de température de près de 80 degrés. Les vents stratosphériques ont ralenti et sont redevenus au même niveau que les vents troposphériques. Et puis dans une phase, dans une troisième phase, alors là, il y a eu donc toujours un point chaud, mais un relaxement des températures stratosphériques et puis une nouvelle accélération des vents. Donc, c'est assez descriptif parce que pour l'instant, on n'a pas un modèle très... C'est le temps ? À bientôt. On accélère, comme les vents. Là, oui, par exemple, la déformation du profil thermique dans la stratosphère, vous voyez ces grandes boucles, enfin, ces excursions en température qui se sont produites pendant les quelques mois entre janvier et mai, à peu près. Alors, certains constituants, en particulier l'acétylène et la phosphine, peuvent nous permettre de caractériser le mouvement vertical. Alors, l'acétylène, il est essentiellement présent dans la stratosphère et très peu dans la troposphère parce qu'il condense au minimum de température. Donc, si vous avez un mouvement ascendant, c'est les masses d'air qui sont pauvres en C2H2 que vous allez avoir et qui vont devenir visibles. Le pH3, c'est l'inverse. Il est présent dans la troposphère et il condense dans la stratosphère. Donc si vous avez un mouvement ascendant, vous allez avoir des masses d'air riches en phosphine qui vont apparaître. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ces deux régions qui correspondent donc à la bande de latitude de l'orage. Et là, on a une coupe en longitude. Ben, vous voyez un appauvrissement de l'acétylène à l'endroit où l'orage s'est déclenché et puis un enrichissement en phosphine. La même chose pour certains autres composés alors qui sont présents, eux, dans la stratosphère également. Le diacétylène, le méthylacétylène, le dioxyde de carbone. Certains ont vu leur concentration augmenter. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est l'augmentation de température. Donc, entre le bas et le haut, vous avez un facteur très important dans l'émission. Alors, la dernière, pratiquement, diapo, c'est... pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, c'est un modèle simplifié, hein, j'insiste, parce qu'on ne peut pas représenter tout ce qui se passe dans un phénomène d'aussi grande complexité. Essentiellement, c'est en plus un modèle qui prédate ce phénomène, mais depuis des décennies, on fait des modèles météorologiques de l'atmosphère profonde de Saturne, et bon, on en voit là une application très intéressante. Donc, on pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a donc, dans ce nuage de vapeur d'eau présent vers 10, 12 bars, il va y avoir donc une activité du fait de l'insolation accrue au moment du printemps boréal. Il va y avoir un échauffement local, une convection plus importante. Une colonne d'eau ou de vapeur d'eau va s'élever. Et ensuite, elle va entraîner avec elle des composés comme l'ammoniac, l'hydrosulfide d'ammonium, qui vont se condenser à une altitude intermédiaire, et puis grâce à sa buoyancy en anglais, je ne sais pas traduire en français, sa turbidité, cette colonne va s'élever au-dessus du nuage principal. Elle va se refroidir par expansion adiabatique, mais en fait elle va continuer à s'élever jusqu'à probablement quelques dixièmes de millibar. Donc le schéma ici est incomplet, il devrait y avoir encore un mouvement au-delà de ce qui est montré ici. Et puis ces masses d'air vont retomber, elles vont se réchauffer par compression adiabatique, donc c'est ce qui explique un peu ces phénomènes thermiques qu'on a observés. Et alors ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a estimé l'énergie globale qui a été développée par cet orage, et on a estimé que c'était comparable à la chaleur émise par l'intérieur de Saturne en une année, ce qui représente 45% de son bilan d'énergie annuel. Donc c'est colossal. Voilà, merci de votre attention, et rendez-vous dans 30 ans à peu près pour le prochain orage.
Canal Academy vous proposait cette retransmission de la conférence de Régis Courtin, chargé de recherche au CNRS au sein du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA de l'Observatoire de Paris à Meudon. Son intervention à l'occasion de la journée scientifique 2012, organisée par le Bureau des longitudes en l'honneur de Giovanni Domenico Cassini, traitait des phénomènes orageux sur Saturne observés par la sonde Cassini. Je vous invite à écouter les autres retransmissions des conférences tenues lors de cette journée scientifique sur le site de Canal Academy dans la rubrique « En colloque ». Sachez que les conférences du Bureau des longitudes sont gratuites et accessibles au public. Pour en connaître le programme, rendez-vous sur le site www.bureaudeslongitudes.fr.